Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi. C'est arrivé aujourd'hui.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
C'est arrivé un 25 octobre, direction l'année 1616. Il y a donc 4 siècles, une simple tempête changeait le cours de l'histoire. Ce détour forcé mena un capitaine hollandais sur une terre encore inconnue des Européens, l'Australie. Ce moment gravé sur une plaque d'étain demeure l'un des premiers témoignages du contact européen avec notre continent. Les explications d'Iléana Guillochon.
Une mer déchaînée, un navire hollandais perdu aux confins du monde et un capitaine qui, sans le savoir, allait inscrire son nom dans l'histoire australienne. Et quel est son nom ? Dirk Hartog. Alors imaginez, nous sommes en 1616, il y a plus de 4 siècles. Les océans sont encore pleins de mystères, les cartes sont incomplètes et les navigateurs hollandais sillonnent le monde à la recherche de nouvelles routes commerciales vers les Indes orientales. À cette époque, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, donc la fameuse VOC, V-O-C, domine les mers. Véritable empire commercial, représentante officielle du gouvernement néerlandais, elle a le pouvoir de signer des traités, de lever des armées et même de déclarer la guerre. La compagnie expédie vers l'Europe du thé, café, des épices, de la porcelaine et des métaux précieux, et ce jusqu'à sa dissolution en 1799. Et c'est donc pour cette compagnie que Dirk Hartog, capitaine expérimenté, prend le commandement d'un nouveau navire, le Eendracht, ce qui signifie « l'unité ». Et le 23 janvier 1616, il quitte le port de Texel aux Pays-Bas, direction les Indes orientales, l'Indonésie actuelle. Seulement, le voyage ne se passe pas comme prévu. Une violente tempête dans l'Atlantique sépare le Eendracht du reste de la flotte. Hartog poursuit seul, longe le cap de Bonne-Espérance et choisit ensuite une nouvelle route récemment découverte par un autre capitaine, Hendrik Brouwer, celle des rugissants 40e. Ces vents puissants qui soufflent entre les latitudes 40 et 50 degrés sud et qui permettent de traverser les mers beaucoup plus vite. Mais voilà, au XVIIe siècle, il n'existe encore aucun moyen de calculer la longitude. Les marins naviguent un peu à l'aveugle, essayant de deviner quand tourner vers le nord pour atteindre Batavia, en Indonésie. Mais Hartog va trop loin vers l'est, et c'est donc pour cela que le 25 octobre 1616, précisément 9 mois depuis son départ, son navire aperçoit une côte inconnue. 10 ans plus tôt, un autre capitaine de la VOC, Willem Janszoon, avait été le premier Européen à cartographier une partie du continent australien après avoir longé la côte orientale du golfe de Carpentrie jusqu'au cap Kerver, situé plus au nord en Australie. Et Hartog vient donc de devenir le premier Européen à poser le pied sur les côtes d'Australie occidentale et le deuxième à consigner sa découverte du continent australien. Il a sûrement été accueilli au son du concert naturel et unique de l'Australie. Il explore les environs pendant 3 jours. Cependant, l'île n'est pas propice à la colonisation. Mais il note au loin un vaste territoire continental. Avant de repartir, il décide de laisser une trace de son passage. Il fait aplatir une assiette en étain, y fait graver le nom de son navire, la date et les membres d'équipage, puis la cloue sur un poteau, sur une falaise exposée au vent. C'est la fameuse plaque de Dirk Hartog, le plus ancien vestige européen retrouvé en Australie. Et le 27 octobre, il lève l'ancre et poursuit son voyage vers Batavia en remontant la côte ouest. Sur ses cartes, il nomme le continent Eendrachtsland, la terre de l'unité, en hommage à son navire, et réalise ainsi les premières cartes nautiques de la côte occidentale australienne. Hartog retourne ensuite aux Pays-Bas et continue à naviguer jusqu'à sa mort en 1621. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Son passage va laisser des traces, car en 1697, soit 81 ans plus tard, un autre capitaine de la Vogue, Willem de Vlaming, débarque sur la même île. Et en fouillant le sable, il découvre la plaque d'Hartog, un peu rouillée mais encore lisible. Touché par cette relique, il la rapporte en Europe et la remplace par une nouvelle plaque, où il recopie fidèlement le texte original et ajoute son propre nom. L'original est aujourd'hui conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam, tandis que la copie connaîtra d'autres aventures. En 1801, une expédition française menée par Nicolas Baudin fait escale sur l'île. Le jeune Louis de Freycinet retrouve la plaque de Vlaming. Le capitaine français décide d'abord de la laisser sur place, une question d'honneur, mais en 1818, Freycinet revient, cette fois capitaine de son propre navire, et il l'emporte secrètement en France. Perdue pendant plus d'un siècle, la plaque finit par être retrouvée dans les années 1940, et c'est donc après la Seconde Guerre mondiale que la France l'offre à l'Australie en signe d'amitié. Aujourd'hui, elle est exposée au musée maritime de Fremantle, ici même en Australie occidentale. Et plus de 400 ans après, l'île Dirk Hartog est devenue un parc national et un site du patrimoine mondial de Shark Bay. Un lieu où nature, histoire et mémoire se rencontrent et où, face au vent et à la mer, on peut encore imaginer ce marin néerlandais posant sa plaque d'étain sans se douter qu'il venait d'inscrire son nom dans l'histoire australienne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Il regarde le ciel immobile et se demande où sont les villes et les ténagères invincibles qui n'est pas revenu de l'ouest. Il regarde la mer impavie.
Et c'était Benjamin Biolay avec sa toute dernière chanson, Le Penseur, extrait de son dernier album, en ce samedi sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve bien entendu dans quelques instants. A tout de suite.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien aujourd'hui, on va parler de stratégie et de stratégie importante pour nos deux pays, la France et l'Australie, avec Benjamin Galeado. Vous êtes délégué interministériel pour l'approvisionnement des matériaux et des minerais stratégiques pour la France. Bonjour déjà.
Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices.
Alors, tout est dit à peu près dans le titre, hein, mais c'est un rôle tellement stratégique pour la France et pour l'Australie. À quel point, justement, c'est stratégique tout ça pour le gouvernement français?
Alors, d'abord, il faut voir de quoi on parle. On parle de minerais et métaux stratégiques. Les deux termes sont importants parce qu'il s'agit non pas simplement de matières premières, mais c'est de toute une chaîne d'approvisionnement qui permet pour une très large gamme d'industries de disposer des métaux qui servent donc à la réalisation de produits industriels aussi importants que les automobiles, les applications de défense, l'énergie. La quasi-totalité des secteurs industriels sont concernés. Donc c'est évidemment stratégique parce que tout ce qu'on a autour de nous, l'ensemble, j'allais dire, des équipements, que ça soit industriels ou de grande consommation, utilisent des métaux, et de plus en plus de métaux, en tout cas des métaux de plus en plus diversifiés. Et donc, évidemment, c'est important pour l'industrie française, donc c'est important pour le gouvernement français, et c'est important dans notre relation stratégique avec l'Australie, parce que l'Australie est un des pays au monde les plus importants dans cette industrie, pas simplement dans l'industrie minière, mais aussi en aval l'industrie des métaux. Et donc, c'est pour cette raison que quasiment dès ma nomination, donc deux ans et demi, il y a deux ans et demi, États-Unis. Donc nous avons signé dès juillet 2023 un accord de coopération avec l'Australie. Et depuis, pour vous donner l'importance, ça fait la quatrième fois que je me rends en Australie. C'est l'un des principaux pays que j'ai visité depuis ma nomination.
D'accord, ouais, donc ça veut bien dire que l'Australie est un des acteurs importants. Et c'est vrai qu'en termes de réputation, aujourd'hui en Australie, quand on est ici depuis un petit moment, on sait que ça fait un moment que l'Australie a basé son économie sur l'économie de son sous-sol, en fait. Mais ça, aujourd'hui, c'est super important, je suppose, pour la France, pour l'Europe également.
Oui, alors, il faut bien distinguer, là aussi, différentes substances. Donc, évidemment, l'Australie, pour des raisons géologiques, hein, c'est un pays qui dispose d'une très, très, très large gamme de ressources minérales qui sont exploitées depuis très longtemps. Alors, il y a plusieurs choses différentes. Il y a, si je prends un exemple, le fer, hein, c'est la plus grosse industrie, une des plus grosses industries minières en Australie. Là, le fer, j'allais dire, il y a un approvisionnement mondial qui est assez large. Et d'ailleurs, l'essentiel de la production de fer australienne, pour des raisons pratiques, de logistique, elle va essentiellement en Asie. Et donc là, j'allais dire, le lien, il est pas particulièrement majeur. En revanche, lorsque l'on parle ce qu'on appelle les minéraux critiques ou les métaux critiques, qui sont ceux qui sont utilisés par exemple dans la voiture électrique, le lithium, le nickel, le cobalt, là on est sur des substances qui sont un peu moins disponibles et présentes à travers la planète, sur lesquelles l'Australie est un fournisseur potentiellement extrêmement important. Si je prends le lithium, il y a pas loin de la moitié du lithium mondial qui est produit en Australie, au moins en ce qui concerne l'activité minière. Donc il est clair que du fait de sa géologie extrêmement variée, du fait de ses compétences, de son savoir-faire, l'Australie est un acteur extrêmement important. J'ai cité quelques substances, mais il y en a bien d'autres. On pourrait parler des terres rares, dont on parle beaucoup dans l'actualité. Les terres rares, l'Australie est d'ores et déjà un producteur important. Nous sommes en France un transformateur de terres rares, donc et l'Australie a encore énormément de potentiel devant elle. Et donc voilà, c'est un exemple où l'Australie peut jouer un rôle pas simplement au niveau régional, mais au niveau mondial.
Et à quel point, vous parliez tout à l'heure, vous avez parlé des véhicules électriques, à quel point ça a changé la donne dans les 10 dernières années, la décision européenne d'arrêter de produire des véhicules thermiques après une certaine date, etc. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été un détonateur, je suis tenté de dire, de toute une nouvelle série d'investissements qui devaient être faits, y compris dans les matériaux et les matières?
Bah oui, très clairement, parce que si vous voulez, la caractéristique finalement du véhicule électrique, c'est que la ressource rare pour un véhicule électrique, c'est pas le carburant qu'on met dedans, parce que ça c'est l'électricité, et comme vous le savez d'ailleurs, en France, on a une électricité 95% décarbonée, et on est exportateur. Donc vous voyez, pour nous, pour la France, on est en train de substituer une consommation de pétrole qu'on importe, on va utiliser comme carburant l'électricité, et donc on fait, on diminue nos dépendances et on améliore notre situation économique. En revanche, pour pouvoir faire les batteries des véhicules électriques, là je parle pas de carburant, mais on a besoin, pour fabriquer ces batteries, on a besoin de minéraux. Et on a besoin de lithium, on a besoin de nickel, on a besoin de manganèse, on a besoin de cobalt, on a besoin de graphite. Et ça, donc, c'est là où ça change un peu la donne, c'est que la production mondiale de lithium a besoin d'être multipliée par 10 dans les 10 prochaines années. Donc, c'est pas le cas des autres minéraux. Le fer, on va pas multiplier par 10 la demande de fer. Alors, évidemment, le lithium, on part de beaucoup plus bas, donc les choses ne sont pas comparables. Mais voyez, la dynamique, elle est complètement différente. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où finalement, il y a des nouveaux métaux, ou plutôt des métaux dont la consommation va énormément augmenter, métaux qui sont importants pour une transition écologique et finalement aussi pour notre indépendance énergétique. Eh bien, on a à gérer cette question de comment on va produire ces métaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre premier rôle, c'est déjà de regarder si on en a en France. Et en l'occurrence, du lithium, on en a beaucoup en France. Donc, on va évidemment d'abord et avant tout produire du lithium en France, mais ça suffira pas pour toute l'Europe, ce qu'on a en France. Il y a d'autres pays, il y a d'autres endroits en Europe où on peut fabriquer du lithium, on peut produire du lithium. Et donc, ça veut dire qu'on aura besoin d'importer une partie de notre lithium, d'où l'importance de l'Australie. Il y a d'autres pays avec lesquels on travaille. Et ça, c'est un des exemples qui vous montre que, effectivement, il y a un changement par rapport à la situation précédente qui fait qu'il y a des nouveaux métaux qui apparaissent, donc des nouveaux besoins, donc des relations à établir et à consolider.
Et ça, c'est une partie de vos rôles aussi, c'est aussi de garder un peu votre attention sur les nouvelles technologies qui arrivent. Vous regardez pas forcément à un an, mais je suppose que vous regardez à 5 ans, à 10 ans. Il faut vous tenir au courant de tout ce qui arrive. Parce qu'il y a un impact industriel.
Ah, bien sûr, nous on travaille, on est sur des questions de long terme, hein. On travaille sur des besoins au cours des 20 à 30 prochaines années. Et le cas de toute la transformation liée à la transition énergétique est tout à fait emblématique. Si on regarde un autre exemple dont on n'a pour l'instant pas parlé, qui est le cuivre. Bon. Le cuivre, on va avoir besoin de beaucoup plus de cuivre parce que quand on fait la transition vers l'électricité, hein, moins de gaz, moins de pétrole et plus d'électricité, électricité renouvelable ou nucléaire, électricité décarbonée, ça veut dire qu'on va avoir besoin de plus de cuivre. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire des lignes de transport de courant, il faut faire des moteurs électriques, et un moteur électrique, c'est essentiellement un bobinage de cuivre. Donc, on va avoir besoin de plus de cuivre. On a du cuivre aujourd'hui, il y a des mines, il y a des développements qui sont possibles, et donc aujourd'hui, on n'a pas de tension énorme sur l'approvisionnement en cuivre. Mais en revanche, si on se projette à 15 ans ou 20 ans, on sait déjà qu'il y a beaucoup de ressources mondiales, beaucoup de mines dont l'activité va diminuer parce que les gisements vont être épuisés. Et donc, il faut développer de nouveaux gisements de cuivre. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui intéresse l'Australie. L'Australie a encore du potentiel dans le domaine du cuivre. Et donc, comment le développer? Ça va pas se faire en 5 ans, ça va se faire en 10 ans, en 15 ans. Donc, vous voyez, on est vraiment sur du long terme. Et donc, comment établir cette relation stratégique pour aider l'Australie à développer sa ressource de cuivre?
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne?
C'était le Suisse Stéphane Echer avec Poussière d'or, une nouvelle chanson de son nouvel album également. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
À l'occasion de la première mondiale de GOL, nous avons le plaisir de recevoir Lamine Sonko, artiste interdisciplinaire, et sa sœur Awa Sonko, danseuse et chorégraphe, héritier d'une lignée d'artistes, je dirais, aristocratiques, tout droit du Sénégal. Et ensemble, ils signent une œuvre totale où rituel, musique, danse, et images se fondent pour inviter le public à un voyage à travers une cosmovision africaine ancestrale. Awa et Lamine, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Merci beaucoup Bertrand, merci.
Bonjour à vous et merci pour l'invitation. C'est un honneur, plaisir d'être sur votre radio. Et Lamine m'en a beaucoup parlé d'ailleurs en bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation.
Je commencerai par Lamine. Comment l'idée de créer ce projet GOL vous est venue?
GOL nous parle de l'histoire du Sénégal est le soir des Géoles du Sénégal. Les Géoles sont plus connus par le nom Griot. Griot, en Wolof, c'est Géol. Si on regarde l'étymologie de ce mot Géol, ça veut dire de créer un cercle. Mais ce cercle, c'est un cercle ancestral. L'arbre a palabre pour vraiment faire revivre et faire raconter l'histoire de nos ancêtres.
Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'artiste de prolonger donc cette tradition des griots, un art qui plonge ses racines dans l'histoire millénaire du Sénégal et d'apporter ce savoir dans un contexte contemporain, donc en 2025?
On est en train de continuer ce qu'on a appris à travers nos parents, parce que notamment notre père Boulou Sonko était le directeur du Théâtre National d'Agnès Sorano, et notre maman Oumi Sen était l'une des très grandes danseuses de la culture sénégalaise. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de faire revivre et continuer cette mission que nos parents nous ont passée à travers l'art, parce que ça, quand on parle de l'art, c'est l'espace des artistes. C'est là-bas qu'on vraiment essaie de plonger le savoir de nos ancêtres en utilisant la danse, les masques et aussi l'audiovisuel. On essaie de connecter vraiment ce qu'on sent et ce qu'on peut faire en mouvement. Je pense que Awa peut élaborer parce que c'est la grande sœur et elle a aussi beaucoup fait dans le monde artistique. Donc Awa, à toi.
Excusez-moi de vous interrompre.
Non, c'est nous.
Lamine vient de vraiment d'anticiper ma question. Lamine, on a l'habitude de la recevoir sur nos antennes. Awa, c'est la toute première fois. Je l'ai demandé qui est l'aîné entre vous. Mm-hmm. Et voilà, Lamine a anticipé la question et vous a présenté.
C'est un honneur, en fait, de partager le même plateau parce qu'on l'a fait il y a longtemps étant jeune. Parce que Lamine porte l'héritage familial, l'héritage des ancêtres, l'héritage africain, notamment sénégalaise. On est né dans la famille qu'on a, la maman qui nous a porté, plus le papa. C'est des grands artistes au Sénégal. Ils ont beaucoup fait pour la culture africaine et sénégalaise. Ils ont voyagé beaucoup. Je pense que Lamine vous l'a déjà dit, qu'ils ont fait le tour du monde et tout ça pour amener l'héritage des ancêtres à travers le monde. C'est ce que Lamine fait à travers Géoul. Il continue le travail que les parents nous ont laissé comme héritage. Je sais que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de réflexion et tout ça. Et pour ça, on lui en remercie, nous. On dit souvent que c'est le génie de la famille, Sonko. Pour venir à votre question tout à l'heure sur l'art et aussi sur la culture et l'héritage des ancêtres, on est fiers de le porter, notamment Lamine, à travers Géoul. Géoul, ça nous ramène à l'histoire des ancêtres, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on a délaissé et ce qu'on doit suivre comme chemin. En tout cas, pour ça, merci beaucoup, Sonko.
Vous venez de mentionner quelque chose d'extrêmement important. Vos parents, Oumi Séné et Bouli Sonko, sont de très grands artistes. Parlez-nous du rôle de vos parents dans ce parcours artistique exceptionnel que vous avez mené, dont l'un des fruits, c'est Géoul, notamment.
Parler à nos parents, c'est quelque chose très grande. Je peux dire, notre papa Bouli et notre maman Oumi, ils ont beaucoup travaillé avec le président Senghor. Avant 1960, Sénégal n'avait pas son indépendance. La culture a été un peu oppressée, quoi. En 1960, avec la vision du président Senghor, il a fait créer le Théâtre National d'Agnès Sorano pour essayer de créer un jumelage culturel entre le Sénégal et le monde. Et aussi d'essayer de faire véhiculer la culture. Parce que maintenant, si on voit ce qui se passe dans le monde avec la globalisation, comment on le dit en français, la culture des Géoul, la culture des griots est en danger. Parce que c'est des traditions orales. Et ces traditions orales, à ce moment, is facing a big, big, big problem. Pour essayer de le faire revivre ou de continuer la continuation culturelle de ce qu'on a appris ou ce qu'on a été inspiré par nos parents, c'est à travers les spectacles. Et c'est ça qu'ils ont fait à leur temps. En 1960, il y avait le ballet national du Sénégal, il y avait le ballet national du Guinée-Bissau et aussi Mali. Donc, c'était des moments de faire vivre la culture africaine. Et à ce moment aussi, c'était le same time as the Negritude Movement, le mouvement de Negritude. Qui a été dirigé par Aimé Césaire. Hein? On peut citer Aimé Césaire, on peut citer Léopold Senghor. Hein? Donc, ça, c'était dans les années 1930. Donc, c'était à ce moment-là que ces génies ont été... ils essayaient de faire, comment le dire, to bring back the pride of being, to be African. Tout vraiment essayer de faire revivre et d'avoir cette confiance d'être africaine et de faire véhiculer et partager notre culture. Et moi, c'est ça que j'ai vu nos parents nous créer au Sénégal et nous a aussi aidé à comprendre ça très tôt, que c'est important de vraiment savoir ta culture et comment la faire véhiculer et partager avec d'autres.
C'est extrêmement important. Vous avez évoqué donc deux grands personnages de la culture africaine et de la culture pas seulement africaine, mais de la culture noire, parce que Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, est aussi un grand poète, artiste, écrivain et homme politique, et Aimé Césaire, philosophe, penseur et grand théoricien de la négritude, donc une philosophie qui remet l'africanité et la négritude donc sur la scène internationale. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi les ancêtres.
Oui.
Parlez-nous du rôle des ancêtres. Donc, la place des ancêtres et du savoir ancestral vraiment qui coule dans les veines du peuple sénégalais depuis des millénaires.
Ah, le rôle des ancêtres. On est fiers d'en parler parce que si on n'a pas eu les ancêtres, on sera un peu perdu, je crois. On n'aura pas toutes les traditions qu'on a apprises de nos parents et tout ça. Que eux, ils ont appris aussi de leurs parents, et puis eux aussi, ils ont appris des ancêtres, etc. C'est une fierté et une continuité à nous de continuer ça. Alors, les ancêtres nous ont donné un héritage richissime, en différentes manières. C'est les ancêtres qui ont inspiré Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor et d'autres. Et bientôt, je dirais Lamine, parce que c'est un panafricain. Donc, comme eux. Donc, s'il y a une continuité, ça nous rassure, nous. Parce qu'il y a une étoile qu'ils ont plantée, les ancêtres. Ils nous l'ont fait savoir et ils ont continué ça. Et je trouve que Lamine Sonko est sur ce chemin. Et ça, j'en suis fière.
Quand on parle des ancêtres, on parle aussi le monde des esprits. Les ancêtres sont les esprits. C'est les esprits qui nous fait bouger, qui nous fait danser et qui nous fait vibrer aussi. Quand les gens voient la culture africaine, quand les gens dansent, quand ils jouent les instruments, parfois la question que je demande aux gens, c'est quoi qui fait bouger les gens quand ils entendent la musique?
La musique.
C'est cet esprit que la musique porte. Et je pense que nous, à travers la Cosmovision africaine, on apprend comment se naviguer dans ce monde. Parce que cette cosmovision, ça nous fait penser à le monde des esprits, monde naturel, la nature, et aussi le cosmos. Parce que quand on parle about le cosmos, chez nous, au Sénégal, on a cette belief que chacun a son étoile. Et chaque jour, tu dois apprendre comment se connecter avec ton étoile. Et l'orbitation de ton étoile, comment l'étoile bouge. Et à travers Géol, c'est cette histoire qu'on est en train de raconter. Comment connecter avec l'étoile Sirius, qu'on appelle Unir, c'est nous. L'étoile Sirius, ça fait des millions d'années que nos ancêtres nous ont appris de vraiment se connecter avec les étoiles. Parce que dans le monde cosmique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différenciation des langues. On est tous unis parce que nous sommes des beam of light. Nous sommes un piece de lumière. Donc, je pense que quand on parle de nos ancêtres, c'est ce monde qu'on essaie d'évoquer à travers.
C'est ça. Awa, vous avez voyagé et enseigné en Europe avant de rejoindre donc Goël. Vous avez aussi une solide formation en danse, notamment en sabar. Qu'est-ce qui rend la collaboration avec Lamine sur un projet d'une telle envergure si profonde et si particulière?
Alors déjà, je suis fan de son travail. Je l'ai toujours été, parce qu'avec Lamine, on a joué dans une autre pièce qui s'appelait « Une Antigone d'Afrique », qui a réuni l'histoire grecque et l'histoire africaine, notamment sénégalaise, qui a donné le nom de Zeus à Roxane, des histoires qui se rejoignent. Et Lamine Sarr, quand on le jouait ensemble, on l'a joué en Suisse, au Théâtre Saint-Gervais, Neuchâtel, à Zurich. On a un peu bougé en Europe. Au Festival de Limoges aussi. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Lamine. Tu avais quel âge?
14 ans.
14 ans. Il était déjà le directeur artistique d'un grand projet qui s'appelait la Compagnie d'écrits, dirigé par Gilles Lobert, un grand metteur en scène suisse, qui a vu le potentiel de Lamine très tôt et qui lui a donné notamment la direction de l'artiste du côté des Guéwel. Donc, nous les griots, c'était Lamine qui nous donnait à 14 ans, moi l'aîné. Et puis, il y en a aussi des vieux, des papas, des plus anciens, voilà, et qui étaient là. Mais c'est Lamine qui dirigeait, ça veut dire qu'il a il y a longtemps compris l'histoire des rituels, des esprits, des étoiles. L'histoire de Guéwel raconte tout ça. L'histoire de Zeus est bien différente de Guéwel, mais dans l'histoire de Zeus, nous on jouait le rôle des Guéwel, mais d'une autre façon. Et Lamine a amené avec son histoire Guéwel, il nous a fait rappeler déjà comment se connecter avec nos étoiles, comment traiter nos ancêtres, et aussi les rituels qu'ils nous ont laissés ici. C'est un honneur, moi, de travailler avec le petit frère qui a longtemps compris l'histoire et que j'apprends toujours de lui. Et c'est un honneur et un plaisir de partager la scène avec lui.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.
La tirmoso mailen kon andaro beale la tirwarendo mailen kon andaro beale
sont tellement beaux de Lamine Sonko avec cette chanson Tamo. Lamine Sonko, vraiment un très 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 bel artiste. Nous avons la chance d'avoir ici même à Melbourne. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Mia Hansen-Levey, qui est la réalisatrice d'un film qui est passé au Festival du film français, un film sensible, un film étonnant, un film très naturel et un film qui se termine par un soubresaut, un choc et qui vous poursuit et vous suit pendant de très longs jours après ça. Bonjour Mia Hansen-Lovay.
Bonjour.
Vous avez fait le film avec Gérard Canvel comme acteur principal, Le père de mes enfants. Et le titre lui-même est un titre émouvant.
Je ne sais pas si c'est un titre émouvant, mais en tout cas, c'est un titre qui s'est imposé très, très tôt comme une évidence, parce qu'il réunit à la fois le père, qui est bien sûr la figure centrale du film, ses enfants, et c'était pour moi vraiment un film sur les enfants, et la mère de manière implicite, qui est d'une certaine manière contenue dans le « mais » de mes enfants. Et j'aimais cette idée que ce titre réunit tout le monde, parce que c'est un film qui... bien qu'il soit en partie centré sur un personnage qui est un film qui est un portrait de toute une famille, hein, et une famille qui est à la fois celle du producteur, mais la famille de sa vie privée, mais aussi la famille du cinéma d'une certaine manière.
On a l'impression justement de rentrer dans ce monde du cinéma, et on a l'habitude de voir les acteurs, un petit peu des coulisses, quelquefois des intrigues, mais le rôle du producteur est bien souvent escamoté, occulté. Et là, on s'aperçoit qu'on a affaire à quelqu'un qui réunit en lui aussi bien les idées que les pressions, que les problèmes d'argent, que les problèmes de gestion. Finalement, tout converge sur lui.
Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est une sorte de pivot pour tout un monde. Et c'est ce que j'ai trouvé passionnant en écrivant le film et en réalisant après. D'ailleurs, je me suis rendu compte que, d'une certaine manière, le terrain que j'explorais était encore bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que oui, il y a eu beaucoup de films sur le cinéma, il y a eu beaucoup de films avec des acteurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup de réalisateurs et aussi des producteurs souvent très archétypaux. Mais finalement, je ne suis pas sûre d'avoir vu beaucoup de films qui témoignent du cinéma d'une manière qui correspond à ma propre expérience. Et je me suis rendu compte que si je faisais un film dans lequel j'évoquais, je faisais un portrait d'un producteur conformément à ce que j'avais vraiment vécu, ce que j'avais vraiment observé, c'était en fait l'occasion de parler du cinéma d'une manière peut-être nouvelle, et en tout cas de l'aborder d'une manière inattendue, en échappant à tous les archétypes et aux clichés, en particulier grâce à ce personnage, inspiré donc par quelqu'un qui a vraiment existé, parce que c'est quelqu'un qui échappe à tous les archétypes, et c'est une personnalité unique, et donc pour moi c'était très enrichissant d'explorer ce sujet.
Et on rentre donc dans son monde à lui et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a une sorte de tension permanente, de stress permanent. On le harcèle de questions. Tout le monde a besoin de lui parler très vite. Il a besoin de prendre des décisions très vite. Oui, il se retrouve devant une difficulté après une autre et il est censé solutionner tout.
Oui, et en fait, c'est une chose dont j'ai fait l'expérience vraiment au moment où j'ai rencontré ce producteur et que je devinais pas avant. Et c'est vrai qu'il y a certains producteurs qui vivent comme ça, dans ce mouvement permanent, et en même temps, ça donne un sentiment de force, enfin, ça donne une énergie incroyable, ça demande beaucoup d'énergie, mais ça en donne aussi. Et pour moi, ce personnage, enfin, pendant toute la première partie du film, on peut penser à juste titre que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'inertie, quoi, quelqu'un qui a besoin d'être toujours en mouvement, mais donc le jour où on le voit faire une sieste et s'arrêter, cela fait prendre conscience aussi de son malaise, parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, tout s'écroule d'une certaine manière.
Et en même temps, c'est une sorte de présage de ce qui va arriver.
Oui, parce que au moment où il s'arrête, même ne serait-ce que pour faire une brève sieste, c'est comme si le masque tombait, et ce masque, c'est quelque chose qui vient du mouvement et du fait que du coup, le fait d'être toujours en mouvement, c'est une manière de jamais se confronter à soi-même, de jamais se confronter à sa solitude, de jamais rentrer complètement à l'intérieur de soi.
La plupart des gens échappent à eux-mêmes en se donnant complètement soit à un art, soit à des activités. On voit ça chez les financiers aujourd'hui.
Oui. Bien sûr. Et pour moi, il y a quelque chose de profondément ambigu là-dedans, en tout cas chez ce personnage, parce que ce côté hyperactif, c'est pas quelque chose que je juge comme quelque chose de mal. Pour moi, c'est ni bien ni mal, mais c'est vraiment juste paradoxal. C'est-à-dire que pour partie, c'est réellement une source de vie et c'est quelque chose qui rejaillit sur tout le monde et ça entraîne tout un groupe de gens autour de lui. C'est une source de d'activité, de création. C'est quelque chose d'extrêmement riche et désirable. Et d'un autre côté, ça devient aussi quelque chose de complètement destructeur et une manière de se voiler. Et il y a les deux aspects dans le film, et sans que je puisse dire c'est tout l'un ou tout l'autre. Je crois qu'il y a vraiment les deux.
On a l'impression d'une corde raide, et il est constamment sur cette corde raide, et comme je disais, avec des objets qui viennent dans sa direction, et il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur dans toutes les décisions, les petites comme les grandes.
Oui, c'est vraiment comme un funambule, un danseur, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui marche sur un fil. Ouais.
Il y a de très très jolies phrases, il y a aussi une très belle poésie de l'image, dans le sens qu'on s'imagine, c'est factice bien sûr, on s'imagine que c'est presque une vie idée. Idyllique.
Oui, oui, bien sûr, mais parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très lumineux dans le personnage, quelqu'un qui a un rayonnement, et c'est ça que je voulais aussi transmettre, et c'est ça qui m'a marqué chez le producteur qui a inspiré le film. C'était quelqu'un qui avait une aura vraiment incroyable, et en dépit de cette souffrance, et même après sa mort, c'est ce que je garde comme image de lui, c'est quelqu'un qui manait vraiment une lumière incroyable. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie de tourner l'été, et j'ai écrit beaucoup de scènes en plein air, et je les ai fait voyager, parce que pour moi, je ne pouvais pas être juste sur ce personnage si je n'arrivais pas à transmettre cette lumière qui émanait de lui, et c'est ça que j'ai recherché aussi dans le style du film.
Il y a de très belles phrases comme « Je ne te quitterai jamais » qui est une ironie incroyable.
Oui, il y a beaucoup de choses que je fais dire aux personnages qui sont fausses en fait. Que les personnages mentent ou qu'ils ne mentent pas, mais qui souvent dans les films, les gens disent que... Enfin, c'est une chose qui me gêne souvent dans les films, qu'on fait dire aux acteurs que des choses qui sont vraies, alors que dans la vie c'est beaucoup plus compliqué.
C'est beaucoup plus masqué. C'est très beau parce que nous on voit cette merveilleuse campagne, et puis cette vie de famille, ces êtres qui s'aiment, et on se dit « oh c'est beau quand même ». Et puis elle qui dit « je ne suis pas faite pour vivre à la campagne ». Et donc, il y a le contraste qui est là aussi. On voit un homme qui, au fur et à mesure qu'il se fuit, comme il commence à fuir ses responsabilités, parce que ses responsabilités deviennent de moins en moins solubles, qu'il est acculé au désespoir. Et là, intervient une sorte de glissement. Le personnage qui volait d'un stress à l'autre, d'une activité à l'autre, qui semblait pouvoir répondre au téléphone tout en conduisant sa voiture. On sait que certaines personnes le font, que le téléphone est en permanence à son oreille, qu'il est en train de régler des choses les plus banales aux choses de vision, etc. On se rend compte d'une chose, qu'il se détache d'une certaine réalité, d'une certaine santé mentale aussi.
Oui, c'est une chose qui, d'ailleurs, pour moi, et c'est tout à fait, hein, je ressens les choses exactement comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un glissement extrêmement progressif, mais il y a un moment où ce détachement dont vous parlez, cette manière de finalement devenir absent à soi-même, apparaît pour moi d'une manière bouleversante, et je dis bouleversante non pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais parce que la manière dont l'acteur l'a interprété, vraiment, à chaque fois que je revois ce passage, ça continue de m'émouvoir. Alors, c'est une petite scène qui paraît anodine, c'est la dernière fois qu'il vient au bureau, qu'on va le voir aller au bureau, et en fait, il est dans sa voiture et il passe un coup de fil complètement prosaïque à propos d'une commission, d'un dossier à rendre ou je sais plus quoi. Et en fait, j'avais demandé à l'acteur d'essayer de le jouer comme ça en étant complètement absent, en même temps comme quelqu'un qui fait son travail jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au bout, il va pas lâcher une espèce de sens du devoir aigu, et donc il va passer les coups de fil des choses urgentes à faire jusqu'au dernier moment, mais en même temps en étant complètement ailleurs. Et je trouve que le comédien a réussi à l'interpréter avec une vérité incroyable qui fait qu'à chaque fois que je vois la scène, ça m'émeut. Voilà.
Et c'est un comédien extraordinaire.
Oui, je pense que c'est vraiment un grand comédien qui avait malheureusement pas eu la chance, qu'on a beaucoup vu au théâtre, mais qui n'est pas très connu au cinéma en France, même, enfin, qui ne l'était en tout cas pas du tout, même si on l'avait vu dans des petits rôles dans des films. Donc c'est vraiment un grand comédien, et qui avait vraiment cette prestance aristocratique, ce charisme et ce possible rayonnement qui était pour moi essentiel pour le rôle. Et j'ai eu aucune seconde d'hésitation en le choisissant, parce que pour moi il était littéralement le seul comédien qui avait ces qualités-là. Je trouvais qu'il y avait une vérité de lui pour ce personnage que j'aurais pas pu trouver chez aucun autre acteur. Et par ailleurs, j'aurais pas imaginé prendre quelqu'un de connu pour ce rôle qui était celui de quelqu'un de l'ombre.
Oui, c'est un homme de l'ombre, et c'est un homme aussi qui génère beaucoup d'affection. Il y a des engueulades, bien sûr, parce qu'on est dans le monde du cinéma et puis tout le monde est dans le stress. Mais il y a une incroyable loyauté de la part de ses collègues, qui sont devenus des amis d'ailleurs, ou presque une famille élargie. Et il y a un véritable sentiment affectif vis-à-vis de cet homme de la part de ses compagnons de travail.
C'est vrai que c'est lui dit son ami producteur quand il le raccompagne après le restaurant. Il lui dit « Tout le monde t'admire, mais personne ne t'aide ».
Oui.
Puis l'autre lui répond d'un ton vexé, j'ai pas besoin d'aide, qui est pour moi vraiment la phrase qui
montre à quel point il est. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a autour de lui, il y a beaucoup d'admiration. C'est vraiment quelqu'un qui est au centre d'un monde, quoi, qui a construit un monde dont, pour lequel il est complètement indispensable. Et pour moi, le mot père du titre, voilà, je fais aussi allusion à ça, pas seulement à l'armée, mais à tous les cinéastes pour qui il est une sorte de père spirituel et qui va laisser orphelin après qu'il ait disparu.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
On savait que c'était fini, on est quand même parti dans des gens en Paris. Est-ce qu'on sera plus joli? Se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli, t'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi. Amour a refroidi, je crois qu'on s'est tout dit. On s'est pas vu s'affaiblir, c'est facile de se mentir. On se croit toujours solide, jusqu'au jour de la collision. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences? Faudra refaire tous les murs, changer les photos, les peintures, faire une croix sur le futur.
Marguerite et les avions, une sélection RFI pour ce mois d'octobre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.